Oui. Dédain. Donc, les 15 jours de vacances, il n'y a pas. Mais. Ceci dit, dans les vendredis, il y a au moins deux, je crois que c'est tous les vendredis. Il n'y a pas de vendredi qui sont au mois de mars. C'est ça l'idée.
Même pas le premier.
Ah si. Ah oui, je parle des. En tout cas, là, je parle des vacances.
Vous êtes
bon, vous occupez des.
Donc, ça commence le 15. Et attends, qu'est-ce qu'il y a avant? D'accord, donc le 15, le 22 et le 29, c'est ça, c'est bien ça.
Et le 5 avril.
Et avril, et normalement on a encore plus en avril. Hein.
Après,
donc on prendrait quand?
Et après, peut-être un jour plus en mai.
Et ensuite, le cours d'après, il était marqué le 17 mai. Il n'y a rien en avril.
D'accord, oui, bah avril, à cause des. Oui,
des vacances d'école,
je ne sais pas. Je n'ai pas regardé, mais
le 17 mai, 24 mai.
Ah, c'est ça, et deux séances en mai.
On redémarre la semaine. Alors sinon. Il y a plus de séances en avril.
Ah oui. Par contre, bon, c'est plutôt pour l'année prochaine, vous voyez. Avec la réforme du bac, je ne saurai mon emploi du temps qu'à la rentrée, je ne peux rien expliquer, même pas faire de trucs. C'est un tel bazar technique, comme les proviseurs pour les rajouter, s'arrachent les cheveux, il y a des logiciels spéciaux pour essayer de voir si les choses combinent avec ça. Et donc, je crois, comme je disais, ce sera ma dernière année, mais le pire emploi du temps que j'ai eu, donc je ne peux rien dire. Donc ça, je pense qu'on verra ce qui fait qu'on risque peut-être de démarrer, si on continue l'année prochaine, démarrer mi-octobre, le temps que les choses se mettent en place. S'il faut, on fera peut-être un peu moins de séance.
Et deux jours, on
n'en aura pas. Eh
bien,
je sais.
Ah, vous
venez de faire un
travail. Je ne sais pas.
Je ne sais même pas si c'est un travail.
C'est-à-dire avec le temps, on est dans
l'accélérateur. Jusqu'à 8h du soir, on aura des options.
C'est peut-être un peu anticipé, mais c'est rien.
Nuage complet. Ça,
c'est la réponse. Il n'y a pas que là, hein.
Non. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais donc reprendre sur un petit chapitre. Rappelez-vous, c'est un peu courant, puisque dès qu'il s'agit de l'État, il y en a plein qu'on verra au 19e siècle. Puisque là, on est la frontière entre les bascules, 18-19e. On verra quand même un chapitre notamment entier sur Berthe Morisot, qui est très important, et autour d'elle la problématique des femmes impressionnistes. Et on verra aussi une autre artiste, une femme très peu connue, Marianne North, qui est une botaniste anglaise, très intéressante. Et autour de ça, je travaillerai un petit peu justement sur aussi l'illustration scientifique, les frontières entre l'illustration et la création artistique. Et Marianne North, que j'ai découvert très récemment, qu'on m'a signalé. C'est très intéressant. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis après, bon, quand on embarquera, et ça c'est dans longtemps, 20e et 20e siècle, on aura beaucoup plus de ressources. Et comme je vous le disais, on a très peu d'offres. C'est très difficile de refaire des catalogues pour les femmes artistes. Alors, on commence à voir, hein, rappelez-vous, hein, ce que je vous ai montré la dernière fois. C'est donc quand même une grande quantité, on commence à voir des. Excusez-moi, je suis toujours avec mon machin. Mais rappelez-vous, là, par exemple, ici, ça c'est dans cette espèce de galerie d'autoportraits, ce sont quasiment que des femmes de la période néoclassique. Mais alors, bon, j'ai pas mis les noms là-dessus, mais c'est pas. Même quand. Parfois, on a juste un autoportrait, c'est très difficile d'aller trouver d'autres œuvres. Parce qu'on dit de faire le corpus de chaque femme artiste, c'est difficile. Donc, moi, j'ai essayé de commencer à le faire de façon un peu exhaustive. C'est pas évident de découvrir non plus quelles sont vraiment leurs trajectoires, parce que là aussi, il n'y a pas de traces vraiment écrites, il n'y a pas de commande officielle, elles ne sont pas dans les musées ou très rarement. Donc, on est vraiment devant un problème, on va dire, d'histoire de l'art. Et ce qui est assez intéressant, je vous le rappelle ici, c'est cette idée quand même. De presque toutes ces femmes qui se peignent en train de peindre, ce qui peut sembler habituel maintenant, mais parce que c'est quelque chose que l'autoportrait en peintre, quelque chose qu'on a souvent vu, mais en fait c'est beaucoup plus fréquent chez les femmes artistes. Sinon chez les hommes peintres, on va dire, mais là, on va citer Rembrandt, on va citer Van Gogh, on va citer Poussin, Velasquez, un petit peu. Il n'y en a pas tant que ça, en fait. Il n'y en a pas tant que ça. Alors que là, si vous voulez, c'est quelque chose qui existe en plus depuis très longtemps. Puisqu'on avait vu avec Sophonis Bandissola, avec Lavinia Fontana, on a vu ça avec presque toutes les femmes artistes, on a ce phénomène-là. Cette idée aussi d'une preuve performative, une sorte de... on se prouve à soi-même et aux autres qu'on est effectivement capable de peindre, puisque le regard de la société n'est pas toujours aussi clair. Alors, une femme artiste aussi qui est importante, ce qu'on avait vu, Anna Dorothea Terbusch, qui était autrichienne, c'est Constance Marie Charpentier. Son nom, son véritable nom, je crois que c'est Blondelue, et elle était mariée à un charpentier, à mon seul confrère, parce que là aussi j'ai un peu oublié. Et vous voyez, de façon systématique, on la voit avec le carton à dessin, avec le porte-mine, et puis aussi avec son costume. Il y a aussi ça, on entend, rappelez-vous que c'est souvent dans les périodes de brèche, de rupture, qu'il y a l'éruption de certaines femmes artistes. Parce que tout d'un coup, la pression sociale est différente, les modèles sont différents, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on verra avec le dadaïsme ou la révolution russe, on verra aussi sans ouvrir plein de femmes artistes, parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui change. C'est la même manière, d'ailleurs, le maniérisme, on trouve pas mal de femmes artistes au moment du maniérisme, parce que la peinture est un peu dévalorisée. C'est plus la grande renaissance italienne, donc si vous voulez. La peinture, il y a du doute au XVIe siècle sur la valeur, on va dire, la puissance de la peinture. C'est plus le siècle, c'est plus Michel-Ange, c'est plus Raphaël, etc. Donc, cette idée que c'est triste à dire, mais c'est les seules brèches pour lesquelles certaines femmes réussissent à percer, c'est quand, paradoxalement, l'art pictural est relativisé en importance sur la vie sociale. Ou quand il y a une révolution sociale, comme par exemple ici, une période de rupture culturelle. Et donc c'est pour ça qu'on voit aussi ça associé au costume, et toujours la tradition italienne et romaine de l'Antiquité, les cheveux libres, un physique aussi qui ne correspond pas à des standards les canons hérités de l'art grec ou classique, donc à la fois néoclassique dans le style, mais beaucoup plus libre que ça dans la représentation. Alors Constance Marie Charpentier, elle est quand même très référencée, on va trouver beaucoup de ses œuvres. Alors, ce que je vous avais dit aussi, ce qui est notable, en vrai, que ce soit pour elle-même ou pour les autres, on a toujours ce style un peu à la Récamier. C'est un petit peu aussi pour ça qu'on voit aussi ce style vestimentaire qui est totalement une sorte de marque de reconnaissance d'une modernité à cette époque-là, de la part des artistes peintres, comme de la part des femmes qui sont portraiturées, ou des hommes. Oui.
Quelle est la technique dans le miroir?
Ah non, ça c'est pas un autoportrait. Oui, en général, c'est le miroir. C'est pour ça que vous voyez que David, il y avait un jeu d'inversion de lumière, etc. C'est le fameux... C'est le miroir. C'est le miroir. Oui. Et là, vous voyez, donc, on est vraiment dans cette espèce de... Alors par contre, il ne faudrait pas être trop simpliste au niveau du style en disant c'est les révolutionnaires qui sont comme ça. Rappelez-vous qu'on a chez les aristocrates aussi, chez certains aristocrates, une fascination et aussi une envie de parfois de renouvellement des genres, des styles et des modes. Même Marie-Antoinette à certains côtés, donc si vous voyez, il y a quand même l'idée que le monde change. Le monde est en train de changer, fin 18e siècle, c'est un peu sapé de toutes parts, que ce soit au niveau économique, au niveau des banques, du capitalisme, d'une certaine bourgeoisie. Une aristocratie qui voit bien qu'elle est un peu en fin de course au niveau sociologique, les structures de la société, qui s'ouvre aussi à des nouvelles idées. Il y a pas mal d'aristocrates révolutionnaires. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est beaucoup plus répandu et qui n'est pas juste le fait d'une petite caste ou club d'intellectuels, d'artistes, qui de tout à coup aurait redoublé l'entité gréco-romaine comme un modèle. Il y a vraiment... Donc ça se voit à peu près partout, ça se voit dans le costume, dans la coiffure, etc. Alors Constance Marie Charpentier est l'auteur, l'Académie française permet de le dire, de cette peinture qui s'appelle Mélancolie et qui est très remarquable. Alors, malgré tout, ce que l'on voit souvent dans ces types de peintures, c'est quand même une certaine solitude. on est quand même dans une figure de la solitude, que ce soit les portraits ou les autoportraits, quelque chose qui dure depuis Sophonisba Anguissola ou Artemisia Gentileschi. Il y a quand même cette idée qu'on est un petit peu en dehors, dans une marginalité. Donc ça se trouve aussi dans certains thèmes comme celui-ci. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que ce sentiment de solitude qui peut être ici une caractéristique de certaines femmes qui ne sont pas reconnues pour leur art ou pour leur génie ou pour leur créativité, va rentrer progressivement aussi en écho avec le sentiment romantique qui est totalement articulé sur la solitude. Parce que la solitude, le romantisme, repose sur justement une sorte de quête de sens, on recherche sa place sur Terre, dans une société qui ne la donne pas, et donc ce sentiment, on a vu avec Chateaubriand l'autre jour, l'ailleurs, le sentiment de solitude et de puissance à la fois. Ce qui génère souvent le sentiment romantique, c'est sentir une puissance en soi, et en même temps, l'incapacité à la traduire socialement. D'où le déchirement, la fuite, l'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure, parce que je vais entamer sur Géricault, justement. Donc vous voyez qu'il y a aussi des choses qui se rencontrent. Alors, tout ça, ce qui est intéressant dans ce sentiment aussi de l'individu, la quête de l'individu, reconnaissance d'individu, c'est aussi un fruit un petit peu éloigné de la Révolution française, puisque derrière cette idée, vous avez, derrière les aspirations démocratiques, ou on va dire universelles, dans la Déclaration des droits de l'homme, vous avez l'idée, tous les hommes et femmes naissent libres et égaux en droit, etc., c'est que chaque individu commence à compter pour lui-même, pour lui ou elle-même. Et donc cette idée que si on est au-delà des classes, des castes, des déterminations sociales, on est aussi un ou une individu, évidemment. Et donc, là aussi, il y a quelque chose qui génère à la fois une idée démocratique, chaque individu compte, mais aussi un sentiment de singularité, et ça, avec sa version, on va dire, romantique. Alors, ça c'est toujours de Constance-Marie Charpentier, avec quelque chose qui est intéressant, c'est le portrait ici de femmes qui sont à la fois... Constance-Marie Charpentier, elle est peintre, et en même temps, mère de famille, avec les enfants, avec le café, avec les courses à faire, etc. Donc vous avez ici, c'est quelque chose avec une certaine lassitude qui apparaît dans la posture de la femme, parce qu'on n'est pas loin de l'autoportrait, je crois. C'est une scène de genre, hein, mais il n'y a pas l'espèce de vision un petit peu très positive de Chardin, rassurante. Là, il y a quelque chose aussi, une sorte de solitude, hein, et une certaine mélancolie et dans le quotidien, d'être enfermé dans le quotidien. Et vous voyez même le miroir, mais on voit rien, on est dans quelque chose d'assez terne. Et là encore, hein, toujours la famille, l'intimité, les choses dans lesquelles on a du mal à sortir et qui sont peintes effectivement avec un grand soin. Hein, regardez même la perspective du tapis qui est assez remarquable. Alors, ça, c'est sans doute des petites toiles d'intérieur, hein. C'est pas des commandes publiques, c'est pas dans des musées, c'est tout ça aussi. Hein. Donc, on reconstitue, mais ça traduit bien quand même, hein, l'univers un peu enfermé, hein, de ces femmes artistes. Là encore, hein, toujours, alors ici, attendez, il y a un titre, celle-ci, je le retrouve, bah, Mère et fille. Ça paraît être non plus très, très joyeux, on peut imaginer qu'il y a aussi un peu une pression. Voilà.
Il y a des maladresses au niveau du...
Alors, il y a, chez Constance-Marie Charpentier, au niveau de l'anatomie, il y a des maladresses. Par contre, les drapes, les perspectives, les ambiances, etc., sont très intéressantes. Ouais. Mais il y a les proportions, au niveau du dessin, dont les jambes sont un peu courtes, les bras un peu...
Coup,
alors ça, il ne faut pas oublier que Ingres n'est pas le dernier non plus à déformer. À déformer les corps. Mais effectivement, c'est pour un propos purement esthétique. Chez Constance-Marie Charpentier, on peut imaginer que c'est quand même un défaut d'anatomie. Il faut quand même rappeler qu'elle n'avait longtemps pas le droit d'aller dans les académies de nu, de ne pas faire de nu, et de ne pas étudier ces choses-là. Donc, la plupart des femmes n'avaient pas accès aux cours et aux leçons d'anatomie. Donc beaucoup sont des autodidactes. Alors voilà. Mais si on regarde bien, alors c'est pas faux, mais si on regarde bien, vous regardez les mains chez Poussin, elles sont horribles. L'anatomie chez Poussin, enfin pas dans les grandes figures de Poussin, au 18e, vous regardez de près les visages et les mains, ils sont monstrueux. Donc, sauf dans Écho et Narcisse ou des choses comme ça, où vraiment les corps en grand, hein, qui sont très beaux, mais il y a des choses qui sont parfois un peu surprenantes chez les artistes. Alors voilà, toujours un autoportrait, le carnet de dessin ouvert, etc. Alors, je les montre aussi parce que c'est un peu émouvant de retrouver ces ébauches, hein, en tout cas des femmes qui ont une passion, un désir, une volonté, et qui sont quand même brimées. Alors, la Constance Marie Charpentier, là voilà, alors là le dessin est quand même plus rigoureux, toujours elle, au travail, mais le fait de se faire à la planche à dessiner, c'est fréquent. Alors ici, elle, c'est toujours elle d'ailleurs, qui est assez un peu différente. Encore avec le porte-crayon. Alors là, c'est bien meilleur au niveau de l'anatomie, des modèles, etc. Costume étonnant, très grande modernité, y compris dans la coiffure, etc. Donc il y a quelque chose qui est encore un bon témoignage. Alors, pouf. Alors, là, attendez, c'est la portrait de Danton, justement fait par Constance Marie Charpentier. C'est pour vous montrer que il y a des ouvertures, il y a des percées. Au moment de la Révolution française, et comme on avait vu. Marie Guillard qui a fait un portrait de Robespierre, là vous avez quand même un portrait de Danton. Alors elle était en fait belle-sœur, donc si vous voulez, elle était associée à la famille Danton, parce que son mari, je crois, était le frère de la femme de Danton, ce genre de choses, donc ils se connaissaient, mais quand même, c'est-à-dire que vous voyez, c'est des milieux, Danton, c'est un des portraits presque officiels de Danton. Donc vous voyez qu'il y a là aussi quelque chose qui est relié directement, un, au néoclassicisme, à une certaine tradition précédant la Révolution française, mais qui accompagne aussi la Révolution française. C'est comme on a vu comment David aussi, finalement, son intérêt pour l'antiquité gréco-romaine et romaine surtout, lui faisait comprendre la Révolution française de manière spécifique. C'est-à-dire qu'il voit dans la Révolution une nouvelle république, puis un nouvel empire à la romaine, avec y compris des postes de dédoublement, et donc les références qui étaient purement esthétiques et culturelles chez David se traduisent et accompagnent totalement naturellement la Révolution française dans les faits, dans les actes et dans les costumes, y compris dans les structurations politiques, puisqu'on parle de directoire, on parle de consulat, et on parle d'empire, donc on parle même, les structures politiques sont quasiment néoclassiques. Puisqu'elles reprennent l'Antiquité. Donc, vous voyez, là, on voit que ce sont des pratiques artistiques qui sont totalement en phase, y compris qui englobent l'éventail, le prisme, on va dire, révolutionnaire très large. On voit d'une partie de l'aristocratie qui essaye de se moderniser, les révolutionnaires montagnards qui, eux, sont plus radicaux, de sorte de culture un petit peu austère d'une république un peu à la romaine ou à la française qui sera pure, on va dire, incorruptible, etc. Et jusqu'à la variante impériale de Napoléon. Vous voyez que aussi c'est quelque chose qui c'est un spectre très large au niveau des attitudes et des costumes. Mais c'est vraiment un bouleversement culturel. On est en train de passer totalement de l'ancien régime, etc. Alors là encore, modernité, il y a encore genre perruque, etc. Mais c'est de foulard noué, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de couleur, etc. Et alors évidemment, justement, une qui est typique de cette espèce de charnière, c'est Elisabeth Vigée Lebrun, qui sera très proche de Marie-Antoinette, qui sera quasiment une peintre officielle, je ne sais plus exactement, je crois que Marie-Antoinette essaye de faire en sorte qu'elle soit même reçue à l'Académie royale de peinture, avant la Révolution française. Mais on voit que Elisabeth Vigée Lebrun, quand même, bien qu'étant Marie-Antoinettiste, on va dire, et alors. Versailles, Trianon, etc., quand elle fait son autoportrait, elle se voit exactement comme les autres, hein, comme ses comparses, etc. Alors, elle aura une influence énorme, c'est une peintre remarquable. Et là, cet autoportrait où elle est effectivement très libre, un costume extrêmement minimaliste, en plus, noir, rouge, blanc, etc., les cheveux libres, le même type de, je ne sais pas, pré-Charles, etc., et toujours la palette tenue fermement, comme presque toutes ces femmes artistes qui se montrent, et toujours l'idée de. Pas en train de peindre. Quelque chose qu'on avait vu chez Artemisia Gentileschi, qui est très subtil, c'est le pinceau qui touche, y compris le bord de la toile. Vous avez une sorte de rencontre entre la toile peinte et la toile peinte, enfin, la vraie toile et la fausse toile, et qui se rencontre à la ligne du cadre, et le pinceau qui à la fois fait la peinture fictive et la peinture réelle. Donc là aussi, il y a des jeux très subtils, hein, de regard, et puis là, il y a quelque chose qui est remarquable aussi, c'est la lumière sur la palette courbe qui va creuser l'espace, un flou, etc. Alors, Élisabeth Vigée-Lebrun donc, est une des plus grandes peintres de cette époque, qui fréquente quand même la très très grande aristocratie, même la cour. Hein. Et vous avez vu aussi comment elle se voit hein, toujours de façon un peu différente. Alors là, c'est carrément Marie-Antoinette avec ses proches, sa famille, etc. Et alors là, évidemment, la Marie-Antoinette que l'on connaît, hein, que l'on a vu croquée par David sur alors à l'échafaud, donc on a vraiment là encore. Hein, vous voyez que le néoclassicisme ne concerne pas que le révolutionnaire, et Marie-Antoinette, par contre, elle échappe au costume. Il y a cette espèce de révolution stylistique, mais elle sait très bien ce qu'il en est, elle n'est pas du tout étrangère. Mais évidemment, l'étiquette et ce genre de choses lui impose de poser toujours dans la tradition ancien régime. Mais c'est la même peintre, et là encore, vous voyez, c'est la même peintre qui fait Marie-Antoinette en plein de la cour, et ici, justement, Élisabeth Vigée-Lebrun, qui a fait un portrait de Marie-Victoire Lemoine, qui est une de ses élèves, hein, et toujours en train de peindre une toile blanche, etc. Alors là, on avait déjà vu ça, les femmes dans leurs ateliers, certaines femmes deviennent professeurs ou maîtresses de peinture, mais souvent ce sont ce ne sont pas des académies officielles. Hein, c'est un petit peu en marge, c'est plus ou moins toléré, etc. Alors par contre, David, je ne sais plus exactement lesquels, mais David, qui était quand même le grand maître, on peut dire, de l'Académie royale de peinture, puis ensuite, c'est lui qui a transformé le Louvre, qui était en gros le lieu des Académies royales de peinture, c'est lui qui va le transformer en musée et en académie, cette fois-ci publique, et qui va ouvrir enfin. Vous avez, par exemple, on pense qu'autour de David, il y a eu jusqu'à 400 élèves, hein, dont plusieurs dizaines de femmes, etc. Donc c'est une brèche qui s'est faite hein, vraiment à ce moment-là. Et le Louvre a été ouvert, là aussi, à un public beaucoup plus large, avec l'idée d'ouvrir aussi les collections à un public. Hein, donc c'était plus uniquement des collections royales, ancien régime, etc. C'est la naissance d'institutions publiques. Ça aussi, c'est lié à la Révolution française. Donc, et ensuite, Napoléon qui va faire des institutions, etc. Donc vous avez aussi quelque chose qui, au niveau de la culture, change de modèle, puisque c'est quelque chose qui peut être transmis, qui peut être regardé, échangé, et le Louvre est quand même souvent aussi de connaissances et d'échanges. Donc vous avez là une idée nouvelle aussi sur l'art. Voilà. Ça va aller très vite ensuite, parce que 30 ans plus tard, il y a quasiment des photographies, il y aura des productions, donc des choses vont... Ça va aller très vite, mais ça anticipe cette idée aussi d'un partage et d'un accès à une culture qui se démocratise dans cette espèce de chaos remarquable de la Révolution. Alors encore la palette peinte, hein, et puis la pose nonchalante et très libre, hein, à la différence de Marie-Antoinette, qui là est quand même corsetée dans des contenants, etc. Alors ça, je crois que c'est toujours un autoportrait. Avec, je pense que c'est elle, par contre je ne sais pas avec qui, ses enfants et une sœur ou une belle-sœur, je ne sais pas. Alors là, regardez la qualité du drapé, est remarquable. Hein. Là, une robe moderne à rayures, et là, quelque chose qui est plus à l'ancien, qui fait même quasiment penser à du Goya au niveau de la brillance et de l'élégance et des transparences. Un drapé remarquable, mais souvent, vous avez vu, on est dans des scènes enfermées, même on est en extérieur, c'est... Ça respire pas beaucoup, on a l'impression qu'on est presque devant une tapisserie, devant un soleil un peu couchant. Donc, il y a quand même toujours un espace confiné, y compris limité, à la famille, même Marie-Antoinette. Elle est présentée comme mère, avec ses enfants. Hein, pas comme reine, etc., mais comme mère. Donc, vous avez toujours, malgré tout, malgré ces évolutions, vous avez quelque chose qui est toujours un peu étouffant. Alors, ça, c'est une princesse polonaise, je crois. Elisabeth Alexeïevna, c'est ça, de toujours Elisabeth Vigée-Lebrun, qui est donc une princesse aristocratique, avec ici robe d'hermine. Alors je ne sais pas qui c'était dans la famille royale, mais on verra mieux comme ça. Donc, toujours là. Vigée-Lebrun en profite souvent effectivement pour faire ce qu'on appelle un peu des morceaux de bravoure, puisque derrière le portrait, vous avez un travail de lumière qui est assez exceptionnel ici, avec le personnage ici, la sculpture. La lumière est sur la fumée, le bouquet ici, le jeté, l'hermine ici, la fourrure, etc. Le tapis, la perspective, très fine. Donc, vous avez quand même une sorte aussi de démonstration de force que l'on peut comprendre, hein, puisque chaque fois. Alors là, ce sont des commandes, et donc il y a quand même cette idée de montrer aussi son talent, etc. Ça, c'est un autre autoportrait, hein, toujours de, qui est plus connu d'ailleurs, c'est un des plus connus, toujours d'Elisabeth Vigier-Lebrun, et toujours, alors le côté absolument génial de voir peindre un dessin, ce qui est assez drôle, puisque vous avez à la peinture, on fait un dessin, en général, le dessin préexiste à la peinture, on dessine d'abord, alors, surtout dans la tradition académique, où le dessin précède la peinture, on a vu les études de David, tout passe par une sorte d'étude presque scientifique et rigoureuse. Et là, presque toujours, vous avez, comme ces femmes se peignent, on voit presque toujours des peintures qui sont des ébauches. Hein. Toujours cette, comme si c'était un potentiel, hein, et inexploité également. Le costume est affirmé ici avec beaucoup de force. On le voit d'autant plus que quand on voit qu'elle fait des personnages aristocratiques, elle est virtuose dans les drapés, les textures, les brillances, les soies, je ne connais pas, etc. Et les coiffures classiques. Et là, vous avez encore quelque chose qui est délibérément comme un signe d'appartenance à la modernité dans son costume. Plus une harmonie colorée remarquable, du rouge, noir, blanc, brun, etc., qui est superbe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel également. Alors ça aussi, c'est très beau. Hein, ce jeu de regard croisé, on parlait du miroir, hein, donc ça c'est la petite fille qui se regarde dans un miroir, c'est vraiment très très beau au niveau, on va dire, conceptuel, puisque elle ne nous voit que dans le miroir, ou on ne la voit que dans le miroir, il est du profil et de la face. C'est quelque chose qu'on trouvait chez Ingres, hein, dans le portrait de Madame Moitessier, dont on voit le profil dans le miroir. C'est quelque chose qu'une artiste dadaïste française reprendra beaucoup plus tard sur cette idée justement des regards croisés par reflet dans un miroir, une certaine Claude Cahun. Hein. Et là, moi j'ai découvert récemment celle-ci qui est exceptionnelle. En plus, le cadre dans le cadre, c'est aussi très fort. Hein. Mais cette idée aussi, ça c'est quelque chose qu'on trouve chez pas mal d'artistes femmes, y compris très contemporaines, c'est la difficulté d'apprendre vraiment. Parce que là, on ne voit pas vraiment le regard, c'est que, aussi c'est un peu de détournement, hein, cette chose qui...
C'est un miroir ou c'est une peinture ?
Alors,
on a l'impression que
c'est justement, on a l'impression, et quand c'est légèrement oblique, ça pourrait fonctionner. Hein. Il faut vraiment une légère oblique. Au niveau de l'optique, c'est vrai que c'est...
C'est très oblique.
Voilà, il faudrait que c'est un peu plus oblique.
Oui, parce que les yeux sont baissés, alors que là,
c'est
ouais. Donc,
c'est une peinture ?
Non, parce que c'est le titre, je crois, dit clairement le miroir, elle a exactement la même coiffure, le truc, donc c'est l'idée du miroir. Hein. Attendez, moi je fasse le miroir. Ben, c'est ta fille d'ailleurs. Donc très intéressant. Et là encore, un jeune Étienne, alors, je ne sais pas qui c'est ce Étienne, c'est un fils ou un ami, Étienne, lui aussi, en jeune peintre, etc. Alors là on commence à avoir les costumes plus modernes. Toujours de Elisabeth Vigier-Lebrun, donc beaucoup de portraits, là encore. Prince Rezzonico, ben c'est marrant parce que c'est là. Car Rezzonico, c'est celle où il y avait le Mondo Nuovo de Tiepolo. Hein, donc, on imagine aussi que les milieux artistiques sont finalement relativement étroits. C'est des gens qui se connaissent, qui communiquent pas mal. On l'a vu avec David et avec Madame Guimard, la danseuse, là, etc. Donc, et là aussi, même un aristocrate, mais moderne et intellectuel aussi au niveau des livres. Donc, mais vous avez vu, pas de commande ni d'histoire. Alors, on a vu que donc, malgré cette ouverture aux femmes artistes, on ne voit pas de peinture d'histoire, on ne voit pas de peinture de guerre, on ne voit pas de peinture mythologique, on ne voit pas de peinture religieuse, on ne voit pas ce qu'on voit de portraits officiels, ce sont des intimes ou des proches. Hein, elle peint Danton. Parce que c'était, et même Elisabeth Vigier-Lebrun est presque en fait les peintresses, j'ai une collègue qui est peintresse, qui sont auprès de Marie-Antoinette, etc., ou même à la cour, restent un peu, c'est presque des dames de compagnie, en fait, qui font de la peinture, mais qui n'ont pas vraiment le, même si on essaie de les faire advenir à une reconnaissance officielle, elles n'ont pas grandes toiles. Comme les grandes, ce qu'on appelle les grandes machines historiques que tu as. Alors, là, par exemple, justement, c'est François-André Vincent, donc il ne s'agit pas d'une peinture d'une femme, qui là, est le mari de la femme que l'on verra juste après. Et donc c'est une peinture là, mythologique, Socrate et Alcibiade. Voilà, alors attendez, pourquoi j'ai laissé celle-ci parce que Vincent, c'est le nom. Voilà, François-André Vincent. Pourquoi j'ai mis François-André Vincent ici pourquoi j'ai mis ça? Je sais plus pourquoi j'ai mis François-André Vincent. Bon. Parce que je sais plus, c'est le mari de je sais plus qui. Il y a peut-être. Non, mais c'est pas vrai. Bon, je retrouve ici ce Vincent. Je sais, ben, tant pis, excusez-moi, François-André Vincent. Rien à voir. Et. Je continue ma liste de. Enfin, ma liste un peu à une sorte de catalogue, hein, là, c'est difficile de faire autre chose. Ici, c'est Marie-Denise Lemoine Vivier. Hein, donc, vous voyez, alors, je découvre un petit peu avant vous, mais pas tant que ça, parce que c'est difficile aussi, il n'y a pas de texte, par exemple, sur cet article. Hein, donc, on feuillette ensemble et j'essaie de trouver. Alors là, il y a quelque chose, il y a un paysage ouvert, elle est un peu à l'espagnol. 1802, est-ce qu'elle est allée en Espagne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est de cet ordre-là? Mais on est quand même dans une sorte de scène désertique, un ciel gris, et là par contre, un drapé, un travail sur le noir qui est remarquable. Alors elle est beaucoup dit, Marie-Denise Lemoine Villiers, étude, alors. Et par contre, je ne sais pas où sont ses œuvres, parce que ceux-là ne sont pas répertoriés, ce sont des collections particulières. Et là, il y a un modelé qui est remarquable. Alors là, au niveau du dessin, c'est beaucoup plus juste que la précédente. Alors celle-ci, elle a longtemps été attribuée à Élisabeth Vigier-Lebrun, et justement, c'est toujours de Marie-Denise Villiers, etc. Donc celle-ci est d'une modernité extraordinaire. Hein, que ce soit le regard, la lumière, la fenêtre dernière avec une architecture un peu étrange. On n'est pas loin, on dirait presque du Magritte ou du Chico, ou presque du Hopper. Avec, là, il y a quelque chose qui est très très moderne, très très libre, en train de se garder sans doute dans le miroir et de dire à contre-jour. Hein. Le carton, on va pas faire en train de dessiner, le jeté de tissu, et c'est là où on voit qu'il y a un franchissement. Elle est habillée à l'ancienne, un peu à l'antique, comme toutes les autres, mais on voit qu'elle ouvre des portes pour quelque chose de beaucoup plus moderne. Alors, rappelez-vous aussi quelque chose qui est typique de ces femmes artistes. Ça, c'est quelque chose qui est. Souvent, elles sont beaucoup plus audacieuses parce qu'elles sont plus libres, parce que tout le monde s'en fout de ce qu'elles font. Donc, elles savent que leur peinture sera regardée quasiment que par elles ou par des amis. Donc, vous avez fait beaucoup plus d'avancées. Souvent, elles sont beaucoup plus avant-gardistes. On verra ça au niveau du dadaïsme, ou des femmes constructivistes russes. Elles sont beaucoup plus avancées parce qu'elles expérimentent beaucoup plus, puisqu'il y a moins de pression sociale. Donc, quelque part, il y a moins d'attente. Et il y a plus de liberté, parce que là, c'est absolument remarquable. Les cheveux, la lumière, derrière les cheveux, le halo. Alors ça, c'est un chef-d'œuvre, évidemment. Et c'est toujours Marie-Denise Villiers. Alors vous avez vu ce qui est beau, c'est ici en noir, hein, ici en blanc, intérieur, extérieur. Et puis un jeu avec l'espace qui est remarquable, avec ses fenêtres. On a presque du Magritte, parce qu'on ne sait pas qu'il y a valeur de vrai et de faux. Une perspective qui est introduite par le carton, qui est relayée ici ensuite par le bâtiment. Un grand quart, presque un quart de la toile qui est presque une sorte de. Ça évoque un peu la mort de Marat, David au niveau des lumières. C'est remarquable. Alors, là, ce qui est assez drôle, c'est que toutes sont attribuées à la même artiste, mais on voit des ruptures de style. Hein. C'est pas impossible non plus, puisque une bonne partie de ces femmes sont quand même autodidactes, même si certaines peuvent avoir accès à des ateliers. Donc aussi, elles se cherchent souvent. Elles se cherchent, et donc on peut imaginer qu'elles expérimentent aussi parfois des genres ou des styles différents. Mais là, elles se représentent en train de peindre, mais en muse aussi. De ce point de vue-là, ce n'est pas inintéressant. C'est qu'elle n'est pas cette fois-ci jeune femme peignant, mais comme une incarnation d'une muse de la peinture ou une muse des arts, puisqu'elle va, elle a un costume plus classique, hein, presque plus Renaissance. Et puis alors là, quelque chose qui est très bien, c'est le premier plan sur la palette. Toujours c'est pareil. On peint un dessin ou on peint des taches de peinture. C'est assez drôle, parce qu'on est dans une sorte de mise en abîme de la représentation, et on peint le pinceau avec son pinceau, etc. Donc, toujours quelque chose qui est assez drôle là-dessus. Mais cette peinture ne ressemble pas tellement aux autres. Alors, c'est toujours elle, Marie-Denise Villiers, et vous voyez que on retombe presque toujours dans le même registre, hein, avec les femmes, un enfant, l'intimité, un monde enfermé, etc. Donc, pas de fenêtre. Alors, par contre, ce qui est assez marrant, c'est les signes très très clairs, on va dire, de néoclassicisme. La flûte de Pan Gray, ici un médaillon qui fait penser au verre, un mobilier qui fait quasiment le pompéien, y compris des décors ici en candélabre, je crois, qui sont totalement inspirés des décorations découvertes à Pompéi, etc. C'est vraiment aussi une génération qui est totalement fascinée par la redécouverte, ici, au point même les chaises, les sièges, etc. Alors par contre, je n'ai pas les dates des peintures de Marie-Denise de Villiers. Il y en a qui, généralement, sont un petit peu plus maladroites. On peut imaginer, c'est comme Constant Charpentier. On peut imaginer certaines étaient peintures de jeunesse et d'autres de meilleure qualité. Là aussi, c'est quelque chose de très dur à faire. Hein. Et là encore, vous voyez, toujours Marie-Denise Villiers. Là encore, une harpiste. Alors, toujours un monde un petit peu autour de l'art, à la fois musicienne, à la fois peintre, etc. Mère de famille, sœur ou fille, donc toujours le même univers. Très peu d'ouverture sur le monde extérieur, malgré une reconnaissance et un accès à la peinture. Alors, bon, drapé, costume, etc., remarquable, mobilier moderne, et la référence à l'antique, qui est explicite par le décor, les colonnes, le mobilier, etc. Alors, n'oubliez pas que le style empire va naître de là aussi au niveau du mobilier, hein, costumes, vêtements, coiffures, décors, peintures, y compris politique, c'est vraiment un registre. Alors, c'est important de le noter, parce qu'on verra plus tard justement comment c'est des choses qui vont être totalement tordues ensuite, bizarrement par Napoléon III, et y compris après la Restauration, etc., où on va revenir à quelque chose qui est presque plus l'ancien régime, avec ce qu'on appelle l'éclectisme. Avant, j'ai prévu un chapitre sur l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Donc, vous voyez, il y a des effets aussi de bascule stylistique qui sont intéressants. Alors, celui-ci, là aussi, alors, je ne sais pas si c'est un autoportrait. Ce qui est très intéressant ici, c'est le travail de noir et l'œil voilé, etc. Le travail de drapé, un portrait assez étonnant avec un œil caché, une ombre ici exceptionnelle, et puis les brillances. Mais je ne sais pas de qui est cette œuvre. Qui est représentée. Je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit elle. Mais si c'est elle, c'est une œuvre tardive, parce qu'on voit ici qu'elle a des cheveux blancs, tout le reste présenté très jeune et décoiffée, etc. Alors, Marie-Guillaume Benoît, alors presque tout, c'est assez compliqué, parce qu'elle s'appelle toute Marie-Constance, Anne-Valère-Constance. Alors là encore, vous voyez, elle a pas en train de peindre. Avec y compris un très beau regard, un échange entre le regard peint et qui semble regarder. Ici, on devine une tête de personne âgée, et les pinceaux et la palette, etc. Alors là, la liberté s'exprime aussi dans le costume, hein, toujours, hein, avec un décolleté, avec quelque chose qui n'est pas contraint. Et rappelez-vous les peintures que je vous ai montrées aussi de Ingres. Hein, dans le même temps, comment Ingres représente les femmes des hautes sociétés sont beaucoup plus corsetées, beaucoup plus enfermées au sens strict. Pour rappel, parce que je ne sais pas si tout le monde était là, il a montré cette espèce de catalogue de portraits de Ingres, que j'ai réussi à les mettre tout en même temps, qui permettait quand même de voir qu'il y a aussi un enjeu dans le corps. Hein. Alors ça, c'est fondamental. L'idée de la représentation du corps, ou le corps, que ce soit dans l'habit, les postures, les activités, etc. Et voilà comment les classes dominantes de 1805 à 1856, la bourgeoisie qui s'allie avec l'aristocratie, de l'Empire, avec l'ancienne aristocratie, donc tout ce que la littérature française n'arrête pas de faire pendant tout le 19e siècle, c'est de montrer cette espèce de fusion lente et d'amalgame très très lente qui se fait au niveau des classes dirigeantes. Eh bien, en tout cas, le modèle est inventé très très tôt, au niveau du genre. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de genrer le pouvoir de façon très claire. Et l'univers féminin dans les classes dominantes est vraiment cette fois-ci cantonné. Et là, il a fait juste une très petite référence ici à, au néoclassicisme au niveau des vêtements, mais très très vite c'est abandonné. Hein, c'est abandonné au niveau de ces femmes-là qui ne sont pas du tout des femmes libres et indépendantes, hein, comme le sont au contraire les femmes peintres. Vous voyez que c'est bête, hein, mais la façon dont elles se représentent les femmes peintres, il y a un enjeu aussi. Ce n'est pas juste un petit costume pour s'amuser. Il y a un enjeu parce qu'il y a une pression sociale, il y a une pression au niveau du domination et du fait de rentrer dans le rang, qui est quelque chose aussi qui est un enjeu très fort. Hein. Alors, on va voir d'ailleurs la suite avec les portraits de monomanes de Géricault. On est toujours un peu dans le même problème. Donc, ce sont des peintures qui sont quasiment contemporaines, mais ça donne encore plus de poids à la façon dont ces femmes peintres se voient et se représentent. Alors, j'étais arrivé ici, Marie-Guillemine Benoît, donc, et elle est connue, elle est surtout connue pour ce portrait remarquable, effectivement, d'une femme noire, hein, qui est de l'époque. Là aussi, on voit qu'il y a une ouverture esthétique, genre, non seulement. La beauté et le corps peut être vu autrement que dans les stéréotypes et les canons. Elle n'a pas du tout de signe d'esclavage ou de soumission. Elle est tout à fait. Alors, le fait de dénuder les seins, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, hein, ça ne veut pas dire les femmes blanches. Là, il reste quand même trace d'un colonialisme qu'on verra aussi dans l'académisme. C'est qu'on peut représenter la nudité. Quand il s'agit de femmes non chrétiennes, non blanches, donc ça va être les femmes de harem, les femmes des peuples colonisés, les femmes d'esclaves, mais là, donc voilà. Ou alors, les femmes nues blanches, on les retrouve dans les allégories. Hein, ça, c'est ce qu'on retrouvera dans le 19e siècle beaucoup. Là, on est justement dans quelque chose qui est plus subtil, hein, puisqu'il n'y a pas une allégorie, c'est pas une femme de harem, c'est, voilà, c'est surtout sur la beauté de la peau. Hein, une autre manière de peindre le volume aussi, plus par des reflets que par des dégradés, quelque chose de très élégant. Et puis, un regard, là encore, très, très dense, et un magnifique drapé. Voilà, une épure extraordinaire, et une beauté des tons sombres, ici un peu bleu, un peu ocre, avec le blanc. Donc, alors cette peinture est au Louvre, hein, donc elle est quand même aussi, elle a été assez vite, quand même, elle, reconnue. Et vous voyez, là aussi, l'éventail des portraits est assez extraordinaire, parce que c'est encore Marie-Guillemine Benoît qui fait Pauline Bonaparte, donc, qui est en Italie, princesse Borghese, donc elle doit être c'est la femme de Murat, qui est roi de Naples, je crois, qui est le roi de Naples, hein, aristocratie d'Empire, hein, sœur de Napoléon. Et là, on retrouve. Effectivement, la patte de David hein, pour les portraits officiels. Donc là encore une gamme, mais ça reste encore un portrait de femme qui est un peu aussi, malgré tout, c'est un peu une potiche. Hein. C'est Murat, le roi de Naples, et puis on va mettre la sœur de Napoléon, on va la placer comme ça, etc. Mais n'auront pas vraiment de pouvoir. Et là on retrouve encore les signes du néoclassicisme. Avec la robe, le costume, et en même temps des signes impériaux ou royaux, avec cette espèce de synthèse que tente Napoléon, avec l'aide de David et de certains, autour de sa personne. Une sorte de synthèse de la tradition néoclassique, impériale et royale et révolutionnaire à la fois. Vraiment, l'enjeu est de taille, et on retrouve ces traces dans la peinture. Alors, ça, c'est encore Marie-Guillemine Benoît. Mais je ne sais pas de qui il s'agit. Je ne pense pas que ce soit un autoportrait. Et là, vous voyez encore un écart extraordinaire entre Bonaparte, la princesse Borghese, et ici une femme qui semble beaucoup plus libre, hein, autonome, audacieuse, etc. Alors, on a même des motifs grecs, etc. Ça, je ne sais pas ce que c'est une fourrure ou c'est un bichon. Et ça, c'est. Ça ne devait pas être là, c'était Constance Marie Charpentier et sa fille. Donc on a déjà vu Constance Marie Charpentier, donc je l'ai mal arrangé. Hein. C'est des toutes petites peintures, hein. Les capures, c'est des peintures de l'intimité. Hein. Et qu'est-ce qui me reste? Ah non, voilà. Alors là, Non, ça c'était mon rêve. Je ne sais pas qui c'est ça. Parce que c'est Clémentine de l'Électorance, Baronne du Bois. Si, c'est toujours pas François de Charpentier. Mais on l'a vu tout à l'heure. Et là, ça c'est un portrait fait par David et ça. Donc voilà, j'ai pris une sorte de petit catalogue, c'était pour donner des pistes. Ça mériterait certainement, je pense que dans quelques années, on pourra développer encore plus. Il faut savoir quand même les études, alors pendant longtemps, c'est fichu de la figure des Américains avec leurs gender studies, mais par exemple, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus avancés, une bonne partie sur l'étude des œuvres faites par des femmes, y compris en Italie, par exemple, et en Espagne. En France, on est presque le pays le plus attardé au niveau de l'étude des femmes artistes. Parce qu'on a longtemps considéré, avec la belle tradition d'égalitarisme, que c'était une sorte de politique non correcte, etc., totalement dévoyée que d'aller faire des études de genre. Mais en fait, c'est nécessaire, parce qu'il y a vraiment des spécificités, c'est partie de l'histoire, parce qu'il y a des spécificités sur le rapport à l'art, les enjeux culturels, sociaux, etc., il se passe vraiment quelque chose. Et ensuite, il y a vraiment des recherches à faire au niveau même historique pour déblayer et aller chercher dans les musées, dans les palais, dans les maisons particulières, tout ce que ces femmes peintres ont pu faire. Parce que là, vous avez vu, hein, j'ai essayé de récupérer tout ce que je pouvais, c'est quasiment que des portraits, c'est quasiment que des scènes intimes, c'est quasiment que des proches, où de temps en temps, vous avez quelques commandes officielles, mais c'est un petit peu des femmes artistes sont considérées comme des dames de compagnie qui font de la peinture, et bien qu'elles aient accès quand même à cette période courte de la Révolution française, hein, aux ateliers, etc. Donc voilà un petit peu les... Alors, ça va être très long à changer, il faut presque 200 ans pour que ça change, et on est... Ça commence tout juste. Alors, je change de chapitre, mais vous allez voir que on va retrouver des thématiques. Là, le chapitre, c'est les monomanes de Jéricho. Alors, les monomanes de Jéricho. Alors, les monomanes, alors c'est le terme pour désigner les obsessionnels, monomaniaques, monomanie, considérée comme une sorte de psychose. Alors, à l'époque, on ne parle pas de psychose, on parle de monomanie. Alors, rassemblé ici, pour une exposition, je ne sais pas où il était, je n'ai pas trouvé, j'ai juste trouvé le document. Les monomanes de Jéricho les plus célèbres sont ici. Je donnerai les titres tout à l'heure parce qu'ils sont intéressants. Ce sont des portraits de personnes considérées comme malades mentales, ce qui est déjà un progrès, quelque part. C'est qu'on considère que c'est une maladie, c'est pas une possession. Rappelez-vous que Goya, quand il faisait les asiles, etc., c'était une sorte de folie, puis les malades mentaux étaient relégués à une sorte de paradis, immonde rebut de la société, même pas des hôpitaux, des sortes de. Même pas des eaux, des caves, souvent sans aucune dignité, etc. Là, vous avez quand même l'idée qui est intéressante, et qui est que, d'abord, on commence à avoir une sorte de taxonomie, hein, une sorte de répertoire des types de maladies. Donc ça, c'est aussi nouveau. Au lieu de mettre tout dans le même sac, il dit que c'est des gens possédés par le diable ou le démon, vous avez cette idée qu'on essaie de chercher au moins, alors peut-être pas à comprendre, mais à classer. À classer les types de maladies mentales. On n'est que vers 1815, 16, etc. Alors ça, c'est aussi typique du 19e siècle, cette idée de ranger, de classer, de tout vouloir comprendre et ranger. Rappelez-vous que c'est l'époque des grandes académies, c'est l'époque où on a des musées, on commence à faire, c'est l'époque où on va faire effectivement tous les instituts, et toute cette idée de ranger, classer, comprendre et identifier. C'est vraiment une démarche qui est pré-scientifique, qui sera scientifique dans certains domaines, et qui là, au niveau des maladies mentales, se dégage aussi de la religion. Parce que ce qui faisait aussi qu'il y avait un retard hallucinant sur les maladies mentales, c'est que c'était soit considéré comme des hommes ou des femmes possédés par le diable ou le démon. Quand c'était des femmes, souvent c'était assimilé à des sorcières. Hein. Juste une chose, un jour je voudrais reposer la question parce que c'est passionnant. Il y a eu plus de procès de sorcières au XVIIe siècle qu'au Moyen Âge. Hein. Le XVIIe siècle est bien pire au niveau de la chasse aux sorcières que ce qu'on dit les sorcières au Moyen Âge. Non, c'est surtout au XVIIe siècle qu'il y a le plus de portraits de massacres de sorcières. Alors, par exemple, notamment en Allemagne, Suisse, etc. Et les grands procès de Loudun, etc., c'est assez récent aussi. Hein, c'est le XVIIe siècle. Hein, les procès de Loudun, etc., c'est le XVIIe siècle. Donc, si vous voulez, vous avez, de ce point de vue-là, cette espèce de vision de la folie ou de la possession comme quelque chose qui n'a pas à être compris, ou qui doit être effectivement. Rappelez-vous aussi la peinture de Goya hein, sur la folie, ou les exorcistes. Hein, c'est des choses qui sont très récentes. Ce qui fait que l'idée de vouloir regarder le corps autrement et la maladie mentale, c'est quelque chose qui peut être considéré comme progressiste. Alors que vient faire Géricault là-dedans? Ben, Géricault, c'est un jeune artiste qui est né encore fin du XVIIIe siècle, hein, et qui a un ami médecin, on va dire, on les appelle peut-être pas encore des aliénistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent justement que l'esprit est possédé par un autre, un alien. Et qui, la photo n'existe pas, et il demande à Géricault, il lui dit, mais j'ai une certaine typologie que je commence à comprendre, il y a des types de malades, est-ce que tu pourrais leur faire leur portrait, pour qu'on commence à comprendre justement un petit peu, est-ce que leur type de maladie se voit sur leur visage, sur leur trait. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, et que dont Géricault va se saisir, c'est qu'effectivement, dans quelle mesure un visage, une sorte de face, pur, peut exprimer un infini intérieur et des tourments intérieurs absolus. C'est un visage devant qui est le visage de quelqu'un qui a sombré quelque part. Alors, pourquoi c'est important si on va voir avec Géricault? Parce que ça va rentrer en écho avec un sentiment pré-romantique et romantique, justement aussi, de la solitude, de l'abandon. Puisque Géricault, on va le voir, va associer cette idée aussi de la folie et de la solitude à des phénomènes qui seront presque politiques et culturels. Alors voilà les quatre. Alors il y en a, je crois qu'il y en a cinq d'enregistrés sur les cinq monomanes. Alors celui-ci est, je reviendrai un petit peu. C'est la monomane du jeu. Monomane du jeu, folie du jeu. Je reviendrai après. Là, c'est la monomane de l'envie. L'envie étant de manière déguisée de parler d'une sexualité ou d'une libido excessive. Ça, c'est le monomane du vol d'enfant. Quand on dit vol d'enfant, c'est le pédophile. Mais ça ne s'appelle pas comme ça. Et ça, c'est le kleptomane. Et lui, c'est le commandement militaire. Alors, je vais faire une pause justement sur le commandement militaire. On dirait un peu Noël Rockvert, vous vous souvenez? Le commandement militaire, alors en fait, presque tout est là, dans le commandement militaire, puisque justement, ce que va vivre Géricault, c'est la désillusion et la déception catastrophique de la chute de Napoléon. C'est la chute des rêves de grandeur, la chute de l'aventure, la chute des de la grande histoire. Rappelez-vous que Victor Hugo, le grand romantique, a commandé le siècle avait 2 ans, il est né en 1802, son père était général d'Empire, et général napoléonien. Donc cette idée que un monde s'écroule, et qu'on est en train de reculer complètement en... Et ce sera un des grands thèmes de Géricault, et ça sera justement cette idée que la chute de Napoléon correspond effectivement à la chute des rêves, à la chute des idées qu'on pouvait construire un nouveau monde, ensemble. Et que vous avez une désillusion totale. Or, il se trouve que beaucoup de jeunes, ou moins jeunes soldats napoléoniens, ont vécu, alors, en même temps les catastrophes napoléoniennes, mais une sorte de griserie totale, eh bien, en revenant dans un monde où ils sont plus mal considérés, considérés comme des bonapartistes, des révolutionnaires, des, ce qu'on appelle des demi-soldes, Balzac a fait, Colonel Chabert, ça en a repris plein, dans ce genre-là, c'est des gens qui reviennent, qui ont parcouru le monde, qui ont cru dans une sorte d'élan, complètement presque lyrique et mystique, dans ces campagnes napoléoniennes, etc., reviennent dans un quotidien terrible. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était petit, on dit oh, il se prend pour Napoléon, le fou qui se prend pour Napoléon. Mais en fait, ça correspond à une vraie déprime. Alors, on sait déjà que tous les anciens soldats qui reviennent de guerre et de conflit ont souvent un traumatisme post-guerre, etc. Et là, ça se combine avec une idée d'une société. Ils ont déjà le traumatisme de la guerre, plus dans une société qui nie totalement et qui veut oublier ce qu'ils ont fait, etc. Ce qui fait que le monomane du commandement militaire, c'est quelque chose qui paraît effectivement étrange, mais qui correspond tout à fait à un sentiment, alors là, de solitude, d'abandon total. Puisque, et d'un rêve de grandeur, comme s'ils avaient eu, au sens où rêvé, et effectivement, il a le regard ailleurs, il garde son calot, la bouche crispée, effectivement, maradée, la vieille couverture, on peut voir qu'il a dans son asile, et puis ici un matricule. Et avec, j'ai trouvé ces deux. C'est là où c'est aussi un enjeu pour le peintre, parce que l'idée, c'est pas de faire le portrait de quelqu'un avec ses attributs, c'est de montrer dans son regard la photo. C'est-à-dire qu'avec, en fait, c'est juste deux petits points. Hein, c'est sur la peinture, c'est la face, elle représente quoi, le regard, hein, c'est toute petite surface de la peinture, et tout doit être concentré, hein, comme si on pouvait plonger dans la folie de ce regard, etc. Et l'idée de Jéricho, c'est de nous guider le regard, hein, par les lignes de force, par les contrastes, par le geste, vers, hein, ces deux points, blanc sur noir, plus la crispation de la bouche, etc. Avec, alors là, la solitude dans l'espèce de clair-obscur total, hein, et qui est très claire ici. Alors là, j'ai enfin découvert des documents de bonne qualité. Hein, encore que là, il y a des pixels, vous allez voir pour les femmes, c'est encore plus intéressant. Hein, donc, vous voyez qu'il y a aussi quand même une fascination pour un monde intérieur. Et là, cette idée aussi est assez intéressante, parce que c'est cette idée aussi de l'ailleurs, de l'infini en soi. La folie, pour les artistes pré-romantiques et romantiques, c'est vraiment une métaphore aussi remarquable de l'intensité et de l'infini. Puisque, si vous voulez, c'est quelque chose souvent, qui échappe à la mesure. Hein, c'est une sorte de d'écroulement intérieur, d'une sorte de implosion, et c'est quelque chose qui est fascinant. Alors, ça, bon, le voleur un peu, mais alors lui, il fait un peu peur. Hein. Alors, celles qui sont les plus intéressantes, c'est quand même, à mon avis, c'est deux femmes, hein, puisque vous avez, alors d'abord, j'ai trouvé un document d'assez bonne qualité, ici on peut zoomer, hein, et comment est-ce que Jéricho réussit à représenter cette femme et à nous donner cette impression de fragilité et un peu d'implosion du corps, comme si d'un coup le corps n'existait plus. On voit presque pas le bas de son corps. Vous avez y compris une sorte d'hésitation, des grandes masses ici qui sont obliques et qui se dirigent vers le visage, hein, comme une sorte d'évasement vers le visage, fermé par le bonnet blanc, donc la tête est cernée, et on se rapproche progressivement d'un regard et d'une bouche aussi qui sont flottants, des regards sans pupille, hein, quasiment. Sans éclat, éteint, et une bouche, là aussi, qui est totalement dans et un front soucieux par les rides, des mèches folles, etc. Donc, là aussi, sentiment de solitude, de fragilité, on a l'impression qu'elle est presque en train de, comme si elle allait basculer légèrement en arrière et en avant, donc il n'y a plus de stabilité, pas de sol, pas de socle, pas d'espace tridimensionnel, donc elle émerge au sens strict du néant, mais pour y retourner, par les yeux noirs, etc. Mais vraiment là, on a une frontière, justement, hein, et une sorte de, comme si son visage se tendait en avant, mais en vain. Hein, et ça, c'est assez remarquable. Alors, ce qui est drôle, parce que pour l'ami de Jéricho, le médecin, il s'agissait d'essayer de trouver des catégories. Alors, plus tard, on verra avec la photo, et la frénologie, les mesures du crâne, etc., le crâne du dangereux, du bandit, de l'assassin, etc. C'est des choses qu'on va essayer de trouver plus tard. Hein. Et donc, oui, vous voulez dire. Ah non, 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 c'est parce que c'est. Si vous avez cette idée-là, c'est vrai que c'est. On va retrouver ça. Et pour Jéricho, il y a quelque chose de plus qu'une espèce de curiosité, de typologie, on peut dire, de ces maladies, c'est. Eh bien, qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui perd l'esprit ? Surtout qu'on est dans une société qui, pour Jéricho, perd l'esprit aussi. Une société qui devient folle, qui a perdu son sens, au sens strict. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est partagé et qui fait sens. Alors, l'autre femme, effectivement, c'est celle-ci. Hein, alors, la monomane, alors, plus tard, on appellera ça hystérie ou tout ce qu'on veut, etc., de l'envie. Et là aussi, alors, vous avez, cette fois-ci, c'est un peu le même principe avec un évasement ici autour du rouge. Un triangle, on va dire, très sombre ici, de son col, ici, une sorte de grande pluie, un peu ocre, plus un pli un peu plus sombre, un V en rouge, et encore un V autour de sa peau, etc. Donc, ce qui nous rapproche progressivement de sa tête, de son menton, hein, et ici encore cerné par le bonnet, là encore sur le visage. Même regard, presque, la pupille et l'iris sont presque fusionnés, donc ce qui fait qu'on n'a pas cette espèce d'intelligence, parce qu'il y a quelque chose qui semble un regard un petit peu éteint, mais qui ne s'est pas fixé. Les yeux rouges, un rictus, donc là aussi, les éléments d'expression, la bouche et le regard sont dans une sorte de fermeture au lieu d'être l'ouverture. Et puis le front aussi soucieux, ça c'est un des points communs entre les deux, c'est le souci qui se traduit par les rides. Hein. Et puis, un corps aussi, alors là c'est rare d'être des portraits de femmes plus âgées, hein. C'était aussi quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on voyait très peu, ou qui était justement, alors on a vu Goya, hein. On le voit ici, donc ça aussi c'est quelque chose qui est nouveau, et en ce sens-là, ces portraits qui n'étaient pas des commandes officielles, qui n'étaient pas des commandes de ces personnes-là, qui n'étaient pas non plus une idée comme ça de Jéricho, c'est vraiment intéressant parce que c'est une interrogation sur le corps, et les corps qui justement n'avaient pas, qui étaient hors champ, on peut dire au sens strict, hors représentation. Alors, il y a plusieurs corps comme ça, dans le corps social qui n'était pas représenté, souvent les travailleurs, les paysans, les tiers d'État étaient rarement représentés. Les personnes âgées, hommes ou femmes, alors les hommes âgés, c'est souvent la Libye, souvent soit des apôtres de Jésus, soit des philosophes, etc. Ils ont le droit de les représenter, mais femmes âgées, quasiment jamais. Et là, vous avez, sauf on a vu certaines femmes peintres qui sont représentées plus âgées. Là, vous avez aussi quelque chose qui est intéressant de ce point de vue-là. Ce qui est fort aussi pour Jéricho, c'est de concentrer les effets sur très peu d'éléments, on va dire, picturaux. Très peu de couleurs, pas de décors. Pas d'attributs particuliers, pas de. Là aussi, ce qui est très fort de la part de Jéricho, c'est qu'il n'y a pas de, on va dire, de morceaux de bravoure. Par exemple, au niveau des textures, au niveau des brillances, au niveau des satins, des broderies, il n'y a pas ça. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus radical, hein, qui est, là encore, c'est ce que je vous disais aussi sur l'expérimentation. C'est plus certains artistes, quand ils sont dans l'expérimentation, sont plus libres. D'ailleurs, on verra chez les romantiques, ça sera très très clair, notamment avec Jéricho. Le croquis, c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, le fond sombre est aussi métaphoriquement sur l'ailleurs, hein, la solitude, évidemment. Donc, cette idée de femme perdue dans la solitude, c'est aussi, ça fait écho, hein, d'une autre manière avec ces femmes, hein, parce que le commandant militaire, on sait pourquoi il peut être malade. Le kleptomane, il est en relation quand même avec le monde social, hein, c'est le kleptomane, hein, on va le voir, etc. Donc vous avez, et le pédophile, le vol d'enfant, là aussi, on sait, c'est identifiable. Mais l'envie ou le jeu, on est quand même aussi dans une sorte de folie presque intérieure, plus qu'une sorte de. Donc là aussi, vous avez une spécificité, on va dire, de cette catégorie de folie féminine. Alors, vous avez, ce qui est intéressant, c'est aussi un travail de série. C'est que c'est presque tous le même portrait. Je crois qu'on en identifie 5 ou 6, malgré tout. Il y en a peut-être des cachets, etc. Mais voilà. Alors, voilà Jéricho, un autoportrait. Alors, l'autoportrait, je vous parle justement de la liberté, de la touche. Là, on voit dans cette espèce d'autoportrait de Jéricho jeune, il y a quelque chose, là, si vous voulez, on quitte le néoclassicisme de façon très claire. On quitte le néoclassicisme, puisque quand Jéricho. Je ne sais plus en quelle année il est né, mais il a dû naître vers 1780, un truc du genre. Je devrais le savoir, mais je suis nul avec des dates, c'est terrible. Attendez, il est mort à 37 ans. Il a dû mourir vers 1826 ou 7, mais c'est ça, il a dû naître vers 1780, 90, c'est quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, lui, il est trop jeune, c'est pas du tout la génération des David et des autres. C'est quelqu'un qui, justement. Si vous avez 20 ans à peu près en 1800, il a le temps, en tant que jeune, de croire à l'épopée napoléonienne, mais au moment on n'est plus du tout dans la Révolution française, ni dans cette espèce d'héritage, on va dire, un peu austère, néoclassique, etc. Lui, quand il est jeune, ce qu'il va surtout comprendre, et toute la génération de Jéricho, c'est le côté lyrique, aventurier, extraordinaire, confus de ce qu'on appelle l'épopée napoléonienne. Donc j'ai montré des excès un peu délirants la semaine dernière, avec Giraudet, et puis Gros, etc. Donc Jéricho, c'est vraiment une génération encore plus jeune qui rentre là-dedans. Donc, On le trouve dans son portrait, la trace, l'ombre, le vent un petit peu dans ses cheveux, une liberté totale, un regard sombre et une grande solitude. Donc c'est en ce sens-là que Géricault est assimilé lui aussi au romantique et au pré-romantique, hein, sentiment de sa solitude, de sa force, de sa puissance, et en même temps, quelque chose qui va être typique du romantisme, qui sera essentiel dans la française, c'est la liberté. La liberté, c'est on ouvre les horizons. On ouvre les horizons, ce qui fait que le néoclassicisme et la technique néoclassique de David et des néoclassiques ne correspondent pas du tout au romantique. Parce que c'est la technique néoclassique de David et des néoclassiques, vous avez vu, c'est au contraire un contrôle total. C'est un contrôle total du dessin, c'est l'idée d'idéaliser les formes et les figures. Donc si on pense la liberté, on la pense comme une idée presque politique et sociale, mais en tout cas, la liberté, elle va être construite. C'est une liberté contrôlée. Tandis que, avec le napoléonisme et le romantisme, la liberté, c'est au contraire l'aventure. C'est l'idée de lâcher les forces. Lâcher les forces. Et en termes pictural, ça se traduit tout simplement, on lâche la main, on abandonne presque le dessin préparatoire et on peint directement souvent sur sa toile. Donc vous avez quelque chose ici qui va changer au niveau de la manière de peindre. Alors ça se voit très clairement dans ce autoportrait, très jeune. Alors, ça se voit moins un petit peu dans ses peintures. Alors, lui, il est terrible, hein, parce qu'effectivement, il y a une sorte de visage, presque une sorte de confusion et de honte et de rougeur sur les joues. Une lèvre un petit peu plus sensuelle que les précédentes, mais en même temps abattue, etc. Les yeux rouges et un regard terrible et un corps qui se défait aussi. Un corps qui se défait avec une sorte de terne et comme une figure qui a presque réussi même pas à émerger. Alors là, bon, le kleptomane, c'est un petit peu moins, puisque la kleptomanie, finalement, c'est relativement bénin comparé aux autres. mais vous voyez, alors, vous voyez que quand on voit son autoportrait, et quand on voit par exemple lui, il y a aussi dans la figure du malade mental, quelque part, une certaine liberté. Puisque le malade mental, c'est quelqu'un qui est affranchi des normes sociales. Et il en souffre. Mais en même temps, il n'obéit plus aux règles sociales. Donc cette idée aussi, c'est que la folie, quelque part, c'est fascinant parce que c'est un peu une sorte de double maudit de l'artiste romantique. Hein, la fascination des romantiques pour la folie, on la verra très souvent. On l'a vu avec Goya, qui est considéré comme un pré-romantique, qui est quasiment contemporain. Hein. Goya, en 1805, il vit toujours, 1910, etc. Donc, vous cette idée aussi que l'artiste, on peut dire que c'est quelque part quelqu'un qui est, surtout l'artiste romantique, qui est fasciné par les malades mentaux, parce que justement, ils ont quelque part, ils vivent de façon absolue leur moi intérieur. L'artiste romantique négocie encore avec l'extérieur, il a encore des médiations, la peinture. Donc si vous voulez, vous avez la fascination, elle est totalement logique, hein, et on n'est pas tellement éloigné entre l'autoportrait de... Alors, on verra plus tard, mais passant, on ira très loin avec l'Orla, etc. Chez les écrivains, vous avez des choses sur la fascination pour la folie, hein, sur les artistes et la folie. Victor Hugo, son étude totale, Chateaubriand, il est complètement fou. Musset, Confession d'un enfant du siècle, Sylvie, etc. Il est à la limite de la folie et du suicide aussi. Donc, vous avez aussi toutes ces figures d'écrivains romantiques, et on verra Byron, etc. Donc, on n'est pas du tout. C'est quelque chose qui est largement partagé et qui. Et donc, vous voyez, alors ça, c'est au tout début hein, du romantisme avec Géricault. Hein, mais on voit que là, il y a quelque chose où il comprend ces figures-là. Et donc, quand il le fait, c'est pas vraiment comme un portrait néoclassique, on pourrait dire une sorte de scientifique. Il y a un partage. Il partage avec ses modèles quelque chose de leur folie. Alors, justement, à propos du croquis et de la façon de peindre, voilà le brouillon. D'une peinture qui est très connue, elles sont, les peintures sont au Louvre, c'est officier de chasseur de la garde impériale en train de charger. Alors je vous montre juste, ça c'est l'ébauche, et ça c'est la version finale. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a très clairement de là à là, il y a une mise en ordre, quand même, une mise en ordre. le trait, le pinceau est plus maîtrisé, est plus dominé, la structure est plus symétrique. C'est presque, on pourrait le mettre en parallèle avec Napoléon sur son cheval traversant les Alpes, hein, ce qui vont dans un sens différent. Et là, on verrait bien aussi une différence de lumière, de couleur. Mais bon. D'ailleurs, on ferait. Alors. Et ici, vous avez la suivante, c'est la retraite ou la débâcle. Et en fait, là aussi, ça veut dire que tout est là. Et ça, c'est là aussi. C'est une aquarelle, un croquis, une étude pour cette peinture-là. Alors, vous voyez dans les ébauches, on n'est plus du tout dans la manière de travailler de David. Rappelez-vous, David, des croquis, des anatomies, des mises au carreau, des portraits individuels, des choses qui étaient totalement contrôlées. Il s'agissait de soumettre toutes les puissances, toutes les forces à des idées pures et mettre le corps à distance, y compris idéaliser les corps. Là, au contraire, tout parle d'un corps qui se lâche, le geste est lâché, la peinture est matériologique, est visible par des épaisseurs, des coups de pinceau. On est dans une confusion délibérée, confusion de l'espace avec les feux, les incendies et le brouillard. L'idée qu'on est dans la période, on va dire, justement de l'aventure napoléonienne. Quand Géricault peint ça, Napoléon n'est pas encore tombé, et donc il y a cette idée qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. Ce qui compte, c'est cette espèce d'énergie et d'aventure. Alors regardez comment c'est construit de façon très claire. Le cheval a la jambe arrière appuyée sur l'angle de la toile, propulse complètement vers une sorte de triangle évasé qui va de la gauche vers la droite, tout, hein, très clair ici, de l'ombre, et vous avez un cavalier qui, de façon très claire, se retourne vers le passé et tranche le passé. Il fait un coup de sabre, il se détache du passé et il fonce vers un avenir, mais il ne sait pas de quoi est fait l'avenir, on y va, c'est tout. Le côté aventure totale est très lisible dans cette peinture. C'est vraiment presque un cas d'école, hein, avec y compris cette idée du cheval, qui est donc une force animale domptée, mais qui reste encore fougueuse. Alors, la fougue ici, c'est la fougue du cheval, mais c'est la fougue aussi, et c'est fougue, ça veut dire le feu, mais on a aussi les couleurs de feu, on a aussi l'image du feu, le bleu, le jaune, le rouge, le feu, les incendies, et puis vous avez aussi l'idée de la solitude. Là, il ne s'agit plus de troupes entières qui vont porter, etc., comme on a vu même dans les peintures de Gros, ou de Giraudet, ou de David, c'était toujours des aventures qui étaient quand même collectives, dans lesquelles vous aviez un personnage qui se détachait, Napoléon ou Murat, mais là, on a vraiment cette idée que le mec fait ça pour lui, c'est-à-dire qu'à la limite, il ne fait pas que l'armée, mais il y a une sorte d'aventure individuelle, personnelle. Et vous voyez qu'il y a une période napoléonienne, y compris les scènes de guerre napoléonienne, entre Giraudet, Gros, David ou Géricault, on a une gamme de représentations qui montre bien les façons différentes dont ça peut être compris et perçu. Et la version romantique, c'est celle-ci, la solitude, hein, l'aventure, le fait de rompre avec le passé, hein, et puis aussi la bête sauvage, hein, que l'on va dominer, alors ici le léopard, hein, la panthère, donc là aussi on parle d'exotisme, c'est que l'on va à l'aventure, mais il y a aussi cette idée aussi de l'ailleurs. D'ailleurs, on ne sait pas où on va, on coupe avec le passé, on coupe avec cette ailleurs-là, l'exotisme qui est ici, peut-être la mort, hein, etc. Et ça, alors. Tout d'un coup, ça paraît très sage. Quand on voit là. Ceci dit, quand vous la compariez à l'époque, celle-ci, avec les peintures de David, il y avait déjà une rupture terrible. C'est-à-dire que Géricault, très vite, est apparu comme justement un peintre qui apportait autre chose. Parce que l'essentiel est cela. Toujours la même structure appuyée. Alors, ça reste très symétrique. C'est-à-dire que le centre reste effectivement pile le milieu, évidemment, sur cette assise-là. Vous avez quelque chose qui est encore presque pyramidal avec les constructions ici, la lumière qui vient de gauche, l'ombre qui est à droite, mais l'affirmation de couleurs, les incendies, un sol totalement instable, l'aventure. Et alors là, Géricault était un passionné de chevaux, il a fait plein de portraits de chevaux, et il aimait tellement les chevaux qu'il est mort d'une chute de cheval. Assez jeune, à 37 ans, je peux dire entre nous, très jeune. Et donc, les chevaux aussi, c'est. Dans son amour des chevaux, il y a cette espèce aussi de passion. Ah bah oui, il va en faire plus. Avec lui, le cheval est vraiment vivant et il partage cette espèce de fougue, hein, donc cette espèce d'élan et de force qui est Et puis il va faire les courses de chevaux libres à Rome, c'est des choses qu'il va beaucoup travailler. Donc, pour lui, le cheval, justement, et cet animal, c'est pas la bête fauve, mais c'est un animal qui est donc une espèce d'animalité à laquelle il s'identifie aussi. Donc Géricault peut s'identifier au malade manteau, à l'animalité d'un cheval, c'est-à-dire des forces. Ce sont des forces un petit peu qui échappent, hein, qui peuvent être sont plus ou moins socialisées, mais qui ont quelque chose ici de, en même temps de libre, qui sont en quête de liberté.
Et là, il va vers la guerre quand même. Il va vers
la guerre, mais la guerre, c'est une aventure.
Il tourne le dos.
Ah, il tourne le dos au passé, et il va vers la guerre.
Il regarde derrière quand même.
Et il regarde, mais pour. Parce que justement, ce qui est drôle, c'est qu'il ne regarde même pas où il va, il s'en fout. Et vous avez dans cette idée d'être guidé par une sorte de force, sans très bien savoir où il va, la guerre comme une aventure. C'est l'épopée napoléonienne, c'est ça qu'on a du mal à penser. Mais il y a plein de milliers de jeunes qui ont suivi Napoléon avec cette idée d'une aventure totale. À la limite, on s'en foutait, mais on sortait de chez soi, on allait visiter le monde, on allait ailleurs, il se passait quelque chose, enfin, et on ne sait pas où on va. Mais l'essentiel, c'est d'y aller. Je crois que on est dans la confusion totale. Et le passé, bah, on est dans l'idée, on rompt avec l'ancien régime, avec l'ancien monde, etc. Cette idée que, de folie, bon, on a actuellement des folies guerrières, les djihadistes, etc. Hein, on va le passé, faire la guerre, on ne sait pas où on va, sentiments, etc. C'est des choses quelque part. On l'a souvent vu, si vous voulez, sauf que ici, c'est chez nous. Hein, donc, avec l'idée aussi de se battre en même temps pour des forces supérieures. Parce que ce que faisaient Bonaparte et Napoléon ensuite, etc., c'est l'idée, vous avez vu, avec les peintures de Gros, c'est qu'en même temps, ils amenaient le bien. Ils se battaient pour le bien. Hein, ils allaient vaincre les Prussiens, la bataille des Lots, mais les Prussiens ensuite se prostèrent devant eux. Donc cette idée, alors là, il croit à fond. Donc c'est la guerre, mais la guerre, elle fait pas mal, c'est bien. C'est bien la guerre napoléonienne, parce qu'on va sauver les autres aussi. On va bouleverser les têtes couronnées, on va libérer les peuples. Mais c'est aussi une aventure totalement personnelle. Et puis cette idée qu'on fait confiance à des forces supérieures, celles de l'animal, etc. Mais, effectivement, pouf, rêve brisé, chute de Napoléon, fin des guerres napoléoniennes, le retour et la débâcle. Et là, vous avez effectivement, au sens strict, un cheval qui renacle. Et cette fois-ci, le cuirassé. Pourtant, j'étais élevé à Brest et tout, mais ma famille travaillait à l'arsenal à faire des bateaux de guerre. On dit un cuirassé. Oui, c'est le bateau, et ça, c'est le cuirassier. Pourtant, le cuirassier potentiel. Cuirassé potentiel. Et petit, j'allais voir à l'arsenal. Ah, ça, c'est le cuirassé. J'oublie toujours. Donc là, vous avez cette idée. Alors là, vous voyez, il a inversé tout. C'est-à-dire que cette fois-ci, il regarde avec regret là il aurait dû aller, et d'où il vient, qui est devenu sombre. Alors là, il n'y a plus la guerre, mais ce sont des orages, ce sont des affaires. Il reste des résidus de la guerre, et alors là, vous avez une construction effectivement où tout freine. Tout freine, c'est-à-dire le cheval avec ses ongles, le cuirassé, et son épée, etc., le fourreau de son épée, etc., et lui, et voilà, il, comme s'il voulait repartir la bataille, mais cette idée justement qu'il freine, il freine, il freine. Vous avez ici vraiment l'idée que on abandonne un rêve, on abandonne une aventure, et que ça soit dans l'aventure à laquelle on pouvait croire, ou que ça soit dans le retrait, en fait on est seul. Et donc ce qui va dominer aussi, c'est l'idée de la solitude totale. Les deux personnages sont dans la solitude. Et là, c'est intéressant, vous avez vraiment on est dans l'articulation complète de la chute de Napoléon. La chute de Napoléon, et qui va se traduire aussi par la restauration. Voilà. Les nuages noirs s'amoncèlent complètement, parce que non seulement la révolution, avec un débouché sur Bonaparte puis Napoléon, c'était déjà un petit peu, la révolution était un peu tordue, mais ça restait quand même un nouveau monde. Et là, vous avez la revanche incroyable de Charles X et Louis XVIII, frère de Louis XVI, qui arrive en 1815, et alors là, c'est la catastrophe totale, etc. Alors ça, juste, j'ai trouvé, c'est assez drôle, c'est la sœur de Géricault. Donc vous voyez, on est à la frontière entre deux mondes. Hein. Il y a encore le néoclassicisme, on voit bien, et le style empire, on le voit encore dans l'infinité, c'est le portrait de sa sœur. Hein. Et voilà. Alors, maintenant, revenons un petit peu sur Géricault. Alors Géricault, de façon chronologique, je crois qu'après justement cette espèce de. En plus, lui, il était associé à la période napoléonienne. même très jeune, hein, puisqu'il était quand même encore jeune, mais il était parmi ceux qui étaient associés de chez les artistes à cette espèce de nouveau monde que représentait la Révolution française, le bonapartisme et l'Empire, qui font en fait une sorte de bloc. Pour les aristocrates revanchards, ça sera très clair, c'est qu'ils vont mettre dans le même sac tous ceux qui étaient révolutionnaires, y compris les napoléoniens, les bonapartistes. Certains vont retourner leur veste, on saura assez tôt, mais beaucoup d'artistes qui y croyaient vont être identifiés aussi comme des artistes de la période révolutionnaire. Alors je crois que c'est à ce moment-là qu'il va en Italie, justement, donc, tout à coup se ressourcer, parce que malgré tout, même si on n'est pas néoclassique, l'Italie et la peinture italienne fournit à la fois peut-être, c'est là où c'est beau, c'est que l'Italie, on ne peut pas y couper, hein, ça nourrit à la fois la tradition néoclassique et classique, mais ça peut aussi nourrir un romantisme, parce que c'est aussi un monde disparu. C'est aussi un ailleurs. Et donc vous avez aussi, dans le voyage en Italie, que Géricault va faire, et que Delacroix va faire, et que beaucoup d'artistes font, vous avez aussi cette idée de retrouver une civilisation abandonnée ou perdue. C'est une autre lumière, c'est d'autres structures, c'est quelque chose qui est un passé glorieux. Donc c'est associé aussi au rêve, et donc à une dimension romantique. Chateaubriand passe son temps en Italie, enfin en Italie, à voyager partout aussi. Donc cette idée de l'ailleurs, Victor Hugo autrement, on voyage plus dans sa tête, etc. Mais vous avez cette idée aussi du voyage et de la fascination pour l'Italie. Et en Italie aussi, alors là, il trouve aussi les courses de chevaux libres, alors on sait à Sienne, mais apparemment il y en avait aussi à Rome à l'époque. Hein. Donc, ben, vous savez, les chevaux aussi comme une métaphore là de la liberté. Et en plus, en Italie, ils sont encore plus libres, parce qu'ils ne sont pas domptés. Hein. Ils sont dans une sorte de, encore de dialogue, mais ce sont des forces très libres. Alors, ce qui est notable ici, au-delà du sujet chez Géricault, que ce soit dans cette peinture, dans celle-ci ou dans celle-ci, c'est toujours le titre, c'est « Courses de chevaux libres à Rome ». Rien que le titre est déjà un programme romantique, en fait. Bon, la course « Chevaux libres à Rome », si vous voulez. Ouais. Et puis, vous avez cette idée que, ce qui est notable, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué maintenant, c'est les éclats de couleurs et les paradoxes de lumière. Moi, ici. Parce qu'ici, vous avez une homogénéité, vous avez vu de la lumière qui est centrée sur ici, une ombre globale, une pénombre dont le cheval s'extrait précisément, avec une sorte de corps à corps avec les personnages ici, tandis que là, et surtout dans celle-ci, c'est celle-ci qui est la plus connue d'ailleurs, là vous avez des effets de lumière étranges, parce qu'on passe tout d'un coup une sorte de silhouette presque d'ombre chinoise sur un mur blanc, ici un modelé remarquable, là on retrouve du modelé, là on repasse dans l'ombre, sans très bien savoir pourquoi il y a cette espèce de, d'éclatement et de déchirement de la couleur. On passe de l'ombre à la lumière, hein, du modelé à la plat, avec une sorte de tension et de violence. On parle aussi, on passe aussi d'un aplat pur, ici comme une surface lumineuse de fond, à une profondeur. Donc il y a quelque chose qui se déconstruit avec le romantisme, quelque chose qui se défait. Il y a une sorte de déchirure, et ça, ça sera typique de l'art de Géricault, et plus tard de Delacroix, c'est l'idée de la déchirure, justement. Ce sont des gens qui sont déchirés, hein, entre ce à quoi ils avaient rêvé, la réalité, leur solitude, la volonté d'être quand même dans le monde, et c'est ce sentiment de déchirure et d'abandon, hein, d'incertitude, que l'on trouve ici, très clairement exprimé, même par la lumière. Liberté, déchirure, ailleurs, autant de thèmes romantiques et fascinants. Et puis, le corps à corps aussi, une sorte de résidu d'une civilisation. Hein. Alors, juste un truc, Rome, moi j'avais été étonné, hein, Rome en 1830-40, je crois, atteint à peine 50 000 habitants. À Venise, il y a, à cette époque-là, il y a presque 200 000 habitants. Hein. Rome n'est plus qu'une sorte de... Il y a le Vatican, avec tout ce qui s'y passe, non. Il y a les grands princes, les grands palais, etc. Mais Rome n'est pas du tout une capitale économique, etc. C'est l'Italie du Nord, c'est beaucoup plus dynamique. Alors que la Rome de l'Antiquité avait jusqu'à 1 500 000 habitants. Donc Rome aussi fait rêver parce que c'est quelque chose d'abandonné aussi. Donc le sentiment d'abandon, de grandeur, de solitude, y compris, vous les parlez dans les costumes. Alors ici, c'est des gens qui ne sont pas du tout en costume. Parce que ce que vont peindre aussi les peintres quand ils vont au 19e siècle à Rome, quand ils vont voir, ben vous avez dans le forum, vous avez des biquettes, vous avez vous avez plein d'herbes qui poussent, on voit de temps en temps des choses qui sortent de terre, etc. Maintenant, tout a été déblayé, Mais si vous voulez, ça ne correspond pas. C'était vraiment aussi quelque chose qui était fascinant pour les artistes carrières. Donc c'était vraiment romantique. Romantique, bon, c'est une blague, mais c'est vrai en même temps. Donc, et c'est ce que Jéricho trouve là-bas, évidemment. Donc, ces sentiments, alors, de liberté. Ce qui le fascine aussi, c'est la mort. La mort, on l'a vu aussi avec Goya. On avait vu cette idée du corps mort, hein, avec l'agneau et la tête coupée, ou le veau et la tête coupée, ou le poulet comme ça dépecé. Ben, Jéricho est très proche de ce point de vue-là de Goya. D'abord, à cette période-là, c'est contemporain. Goya n'est pas mort. C'est vraiment la fin de la vie de Goya. Et cette idée, vous avez des points communs. La solitude, la folie, la déception, la solitude au monde, hein, la quête d'un ailleurs. Sauf que Jéricho est beaucoup plus jeune, donc celui-ci, c'est quelqu'un qui va, hein, au lieu de s'enfermer comme Goya, il va chercher des choses, mais il se questionne aussi sur le corps mort, le corps malade, et là c'est le cheval mort, hein, donc il reste, on voit, qui n'est même pas achevé. Et pour lui, un cheval mort, c'est pas une carcasse d'écarissage, hein. Quand on sait la passion qu'il a pour le cheval, c'est aussi une sorte d'identification et de grande compassion pour cette espèce de corps affalé dont il ne reste plus que la masse, la chair. Alors ça, c'est quelque chose qui va être aussi, chez Jéricho, qui va pousser très très loin, parce que là aussi, vous avez une sorte de radicalité chez Jéricho, c'est d'aller jusqu'au bout. De la manière qu'on peut faire, on va aller garder la folie en face, on va l'aventure guerrière, on s'en fout, on va jusqu'au bout, et Jéricho, pour faire des études anatomiques humaines, il ne va pas aller regarder des gens qui posent, il va regarder des cadavres. C'est que si son ami médecin le suivant donne la possibilité d'aller regarder des corps humains, d'exécuter, découper. Il n'a pas inventé, ce sont des bras, des morceaux de jambes, etc., dépecés et découpés, de corps humains. Alors c'est difficile à soutenir, mais vous avez, avec Jéricho, l'idée aussi d'aller jusqu'au bout et de regarder en face. Regarder en face, jusqu'au bout, ce qui est fascinant. Alors, pourquoi la mort? Il n'y a pas de plus grand ailleurs que la mort. Il y a déjà la folie, c'est pas mal, la guerre, c'est autre chose. L'ailleurs italien, etc., le passé aussi, on ne peut pas les regarder en face. La mort, on peut la... Et qu'est-ce que c'est que la mort? Qu'est-ce qui reste du vivant quand on ne voit plus de chair, hein, quand on ne voit plus de chair, y compris en morceaux. Donc il y a des choses qui sont assez hallucinantes comme ça, comme celle-ci, où c'est des têtes de décapités. Faut imaginer, faut le faire quand même. Être en face et peindre, c'est atroce. Vous voyez que là, quand on parle d'absolu et de dimension romantique, c'est un romantisme très fort, hein, c'est puissant, et on comprend mieux. Alors, une de ses justifications, c'était d'étudier des cadavres pour, évidemment, alors ça c'est une bonne version, je passe, en fait, avant je regardais ça comme ça, mais maintenant je suis plus sensible qu'avant, quand même. Voilà, donc il n'a pas fait un, il en a fait plusieurs. Cette idée, alors, ça, on est vraiment aussi dans cette idée que le corps humain n'est plus l'espèce de sanctuaire, de temple divin, n'est plus l'image du divin. Parce que ce qui...
Ça a goûté.
Non, non, ça c'est... Non, c'est un, là aussi. C'est un travail intérieur, c'est un travail presque privé, entre son ami médecin et lui, ou qui permettait... Donc c'est un travail d'études. Ce sont des études, mais qu'il fait avec une force incroyable, parce qu'en même temps, il reste de la vie dans ses pieds, il reste de la vie dans ses mains. Et voilà, on est vraiment dans le questionnement absolu sur la chair et le corps.
Ce qu'il y a à la fin, en fait, c'est l'empilement.
C'est une réification transformée en objet, et pourtant, il résiste en restant quelque part vivant et émouvant.
Elles sont exposées,
c'est pas... je crois qu'on peut les voir au musée d'Orsay. Mais ça fait longtemps que je suis pas allé au musée d'Orsay. Alors, je pense qu'en fait, c'est un peu difficile à supporter. Alors, ça, c'est déjà un peu mieux. Mais vous voyez que, si je termine là-dessus, il y avait aussi cette idée, c'est que l'explication religieuse, mais ça, c'est-à-dire que tout ce qui était vraiment la folie, c'était le corps humain toujours à l'image de Dieu. Donc, à partir du moment où on met l'explication divine de côté, on se questionne sur la mort, on se questionne sur Dieu, on se questionne sur la folie. Qu'est-ce que c'est qu'un corps humain? C'est pas l'image de Dieu, c'est un organisme complexe, et que ça soit un animal ou un être humain, qu'est-ce qui est, où est la vie là-dedans? Où est la vie dans la chair, où est la vie dans la peau, où est la vie dans les os, où est la vie là-dedans? Et qu'est-ce qui reste de la vie, etc. Donc vous avez ici un questionnement qui va jusqu'au bout, qui n'épuise pas le mystère, effectivement, c'est en ce sens-là où le romantisme reste clé, c'est qu'on est quand même en plein mystère, il n'y a pas de solution, mais ce qui est caractérisé romantique, c'est justement, c'est on est dans la confusion. Le romantisme, c'est une confusion au sens strict, c'est la fusion des forces, alors on le reverra aussi avec Turner, hein, il y a vraiment la confusion comme quelque chose de positif. Et justement, alors juste, je termine juste en inaugurant quand même, c'est que ces études-là sont des études aussi qui sont préparatoires pour faire une grande œuvre qui sera le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, où là on va avoir une sorte de synthèse de beaucoup de ces problèmes, et on verra qu'il y a aussi une dimension politique, peut-être que vous savez, dans le radeau de la Méduse. Et donc, et la question de la mer et du déluge, ben là je conclusivement, on a parlé de l'ailleurs de la folie, de l'ailleurs de la mort, de l'ailleurs de la guerre, de l'ailleurs de l'exotisme, mais il y a un grand ailleurs remarquable, c'est la mer. La mer et l'eau. Parce que s'il y a bien des choses insondables, profondes, dangereuses, sans limite, qui peuvent vous dévorer, vous porter, etc., donc la mer, c'est quelque chose qui est vraiment aussi totalement romantique. Alors on le trouve chez Turner, chez Caspar David Friedrich, chez Victor Hugo, dans la mer, etc. Ça, c'est la mer, c'est vraiment effectivement terrible aussi. Et puis c'est l'aventure. Vous avez cette idée de la mer ici, et ça c'est une scène du déluge, hein, et on verra bien sûr la suite plus tard. Vous avez le temps, pendant les vacances, d'aller au Louvre, d'éviser. Et voilà. Donc, alors si vous trouvez, à propos, parce que moi j'ai. Sur les radeaux de la Méduse, il y a maintenant, il y a plusieurs émissions qui ont été faites, peut-être qu'on les trouve encore en replay, sur l'histoire réelle du radeau de la Méduse, c'est extraordinaire, il est très moyen de...
C'est lourd.
Hein.
C'est lourd, mais c'est... Non, mais c'est vrai qu'il y a un aspect politique derrière.
Ah bah oui, oui.
Et puis les officiers qui ont abandonné les pages, ils n'ont pas été tellement plus inquiétés que ça.
Non, non, et le procès, il est en train de mettre en place, c'est presque par hasard. Donc voilà, donc, bonne vacances.
Merci.
Printemps.
Voilà. Très bien.
Merci.